de Zeus.
Bonjour.
Qu'est-ce qui se passe?
Je ne peux pas vous le dire.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Vous me recevez à vous parler.
Qui êtes-vous?
Je n'en sais rien. Et je compte bien le découvrir.
Fini la rigolade.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-l'œil? Qu'est-ce que vous faites?
Votre émission hebdomadaire sur le cinéma.
Vous avez une autorisation?
Bien entendu, j'en ai une.
Cinérama.
Ce nom, je l'encaisse pas.
Ben ça, c'est ton problème.
Chronique, blind test, interview.
Eh ben, c'est génial.
Amusez-vous bien.
C'est gentil.
Tout le plaisir est pour moi.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama, une demi-heure pour parler de cinéma avec des chroniques de films qui sont en salle et puis aussi un blind test. Nous jouons avec la filmographie de Jean Dujardin car il est dans le film Le Rayon et les Ombres de Xavier Giannoli. Je vous parlerai aussi de Projet Dernière Chance. C'est toi Guillaume, deux films.
Oui, je vais vous parler du Sifflet et de Orphelin.
Et toi Sophia, un film?
Oui, je vais vous parler de La Danse des Renards de Valérie Carneuil.
Mais nous commençons cette émission avec un professeur amnésique qui se retrouve seul dans l'espace pour sauver l'humanité. C'est Projet Dernière Chance.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui?
Cinérama.
Non, j'ai été plutôt déçu. Alors c'était sûrement une comédie.
Le soleil est en train de mourir. Vous êtes titulaire d'un doctorat en biologie moléculaire.
Et je vais au boulot à vélo. Et c'est pas pour faire du sport.
Si on ne fait rien, tout disparaîtra sur Terre. Y compris nous.
Projet Dernière Chance, blockbuster de science-fiction porté par Ryan Gosling, jouit d'une aura spectaculaire au point que certains y voient déjà le futur chef-d'œuvre du genre. Ces derniers jours, ce sont les mots des critiques américains qui ont de quoi effrayer. Ceux-ci n'ont pas lésiné sur les comparaisons. Un coup, 2001, l'Odyssée de l'espace, rien que ça, une autre fois Gravity ou encore un Interstellar en plus drôle. Du grand n'importe quoi, soit je n'ai pas vu le même film que tout le monde, soit mon jugement est désespérément singulier, mais Projet Dernière Chance s'apparente plutôt à un produit comique, un film complètement oubliable qui ne développe aucune véritable interrogation.
Bon, j'ai rencontré un alien. C'est un ingénieur de génie alors. Quand je piche pas ce qu'il me raconte, bah, il fait un petit spectacle de marionnettes pour ma mini-cervelle et en fait, je trouve ça cool. Lui aussi, il a sa planète qui est en train de mourir. On est là pour les mêmes raisons.
Le film est l'adaptation du roman éponyme d'Andy Weir, l'auteur derrière Seul sur Mars. Le pitch a été conservé, un astronaute, Ryland Grace, se réveille amnésique dans un vaisseau spatial à des millions de kilomètres de la Terre. Alors il découvre peu à peu qu'il est le dernier espoir de l'humanité face à une extinction massive. Le film respecte cette construction et dès l'ouverture, eh bien, on découvre un Ryan Gosling chevelu en mode vraiment pouilleux, sortant d'hibernation et semblant complètement à la ramasse. C'est confus et peu rassurant, d'autant qu'il se retrouve dans un vaisseau qu'il ne sait même pas piloter. Je ne suis pas pilote, nous prévient-il à plusieurs reprises. Une fois une certaine sérénité recouvrée, le récit oscille entre l'espace et la Terre où l'on découvre que Ryland était professeur de collège. Mais cela ne dure pas. L'homme est arraché à l'enseignement pour résoudre un problème délicat, lui l'ancien biologiste moléculaire, les astrophages. Ces organismes unicellulaires extraterrestres se nourrissent de l'énergie solaire. Alors le problème, à force de consommer cette énergie, eh bien le soleil va finir par faiblir et nous plonger dans une ère glaciaire sévère d'ici à 30 ans. Les scientifiques découvrent qu'un seul système stellaire n'est pas atteint par ce mal, mais il est loin. Le voyage sera un aller simple, sans retour. Nous voilà prévenus.
Déclinez votre identité.
Je m'appelle Ryland Grace. Je sors tout juste du coma. Je suis à des années-lumière de chez moi.
Et je suis pas astronaute. Je suis pas astronaute.
Il s'agit du projet Dernière Chance. Le Soleil n'est pas la seule étoile à mourir. Toutes les étoiles se sont contaminées entre elles, sauf une.
Pourquoi?
On n'en sait rien.
Alors on a construit un vaisseau pour aller enquêter sur les lieux.
C'est à 11,9 années-lumière. Nos astronautes, ils meurent en mission.
On peut dire qu'il s'agit d'une mission coup de poker?
Dernière chance, évidemment. Qui serait partant pour ce genre de plan?
À mesure que le film avance tel un balancier, nous oscillons entre le présent dans l'espace et le passé sur Terre. Ce qui se passe sur Terre n'est pas très riche. On y expose le problème et la genèse de cette mission suicide. Mais la figure effacée du professeur de collège devient une figure comique. Tout est prétexte à rire, même les grandes conférences entre grandes sommités mondiales. Un seul personnage fait la tronche pour donner le change. C'est la chef du projet, Sandra Hüller. Oui, celle qui avait eu un rôle déterminant dans le film Anatomie d'une chute, mais qui là n'a qu'une posture et d'éthique. Alors ce qui se passe dans le vaisseau est nettement plus intriguant, hein, d'autant que notre astronaute va faire une rencontre du troisième type. Un confrère audacieux a osé la comparaison avec le film de Denis Villeneuve, Premier Contact. Eh bien, on en est loin. Chez Villeneuve, la barrière de la langue était un défi intellectuel fascinant. Ici, les problèmes de communication sont balayés en quelques minutes. C'est le second degré qui l'emporte. L'aventure spatiale doit rester drôle. Cette rencontre transforme le film en un simple buddy movie. Les problèmes de communication sont donc balayés par des solutions expliquées à la hâte qui peinent à convaincre. Mais qu'importe, c'est pour un public familial, on ne va pas embrouiller les enfants. C'est là le plus gros problème du film. L'extraterrestre adopte sans cesse des réactions anthropomorphiques, allant même jusqu'à faire des blagues. Il faut donc l'admettre, on laissera le soin aux parents d'expliquer la grosse blague autour du fist-fucking. Je n'en reviens même pas qu'ils aient choisi un tel running gag, mais c'est bien vrai.
Tu vois ça, ça s'appelle se faire un fist bump. Fais-moi un fist ? Non, c'est fais-moi un fist bump. Non, c'est pas la même chose.
Avec ce personnage alien, le film se coupe de la grande histoire de la science-fiction. L'alien peut être menaçant, évidemment, c'est la plupart du temps. Incompréhensible ou parfois attachant, comme E.T. Mais devenir un bon pote, ça a déjà été fait, mais c'est allé quand même assez loin. Il n'est finalement pas étonnant que les réalisateurs de 21 Jump Street aient trouvé ce scénario exaltant, d'autant que la fibre amicale est exploitée jusqu'au bout avec les enjeux de vie ou de mort habituels. La résolution des équations sentimentales se voit à des kilomètres. La seule chose qui, à mon sens, a de l'intérêt à partir du moment où on a admis la relation entre ces deux êtres loin de chez eux, c'est leur capacité à confectionner des maquettes ou rafistoler des objets, et ça leur sert aussi de moyen de communication. Il y a quelques bonnes trouvailles quand même, il faut le dire. Projet Dernière Chance est donc une comédie qui se joue en partie dans l'espace et qui ne charrie aucun questionnement. C'est un spectacle plaisant et idiot à la fois. Alors c'était pas un film pour les amoureux de science-fiction. Si l'on peut être conquis par les images spatiales, qui sont vraiment de toute beauté, le film est conçu pour l'IMAX et c'est ainsi que je l'ai vu. Le scénario, avec ses explications pseudo-scientifiques, son extraterrestre aux airs d'humain déguisé, son virage vers la comédie, mais c'est quand même moins drôle que Les Gardiens de la Galaxie, je trouve, en fait un film lourdeau, paresseux et tout sauf audacieux. Ceci étant dit, Ryan Gosling, qui est de tous les plans, eh bien s'en tire très bien, comme toujours. Voilà, j'ai fini ma longue logorée sur Projet Dernière Chance, qui est un film visible depuis le 18 mars sur les écrans. Des adolescents découvrent un sifflet ancien et se retrouvent confrontés à une menace surnaturelle. Nous parlons du sifflet.
Pardonnez-moi, mais la situation est très délicate.
Cinérama.
Ce film est une catastrophe.
Lorsqu'on entend le sifflet, on se demande si c'est bien l'air du renouveau qui souffle sur le genre ou s'il en est le chant du cygne, tant la bande-annonce semble nous vendre quelque chose de terrible. N'est-ce pas, Vincent ?
Oui, alors moi j'ai pas vu la bande-annonce, c'était simplement sur le pitch où j'avais effectivement quelques doutes en me demandant si c'était bien indiqué de le traiter dans l'émission, mais tu es allé jusqu'au bout.
Mais oui, je comprends, mais bon, c'est en fait ni l'un ni l'autre. En fait, on pourrait avoir peur quand on sait que le film est signé Corinne Hardy, derrière le pas terrible, le sanctuaire et le carrément affreux La Nonne. Difficile d'avoir confiance en un réalisateur dans la moyenne basse de ce que nous donne le genre en ce moment, surtout quand la même bande-annonce nous vend que c'est par le producteur exécutif des Boursouflés Evil Dead Rise, le The Monkey et Long Legs. Et même s'il manque profondément de surprises pour en être vraiment une, j'ai passé un moment pas déplaisant devant ce sifflet. Et j'ai envie de revenir sur ses bons aspects car il me semble qu'ils disent quelque chose de plutôt intéressant sur un certain cinéma horrifique actuel. Le sifflet, c'est l'histoire d'un groupe de lycéens qui tombe sur un artefact oublié, un sifflet de mort aztèque. Ils découvrent que souffler dedans libère un son terrifiant capable d'invoquer leur mort future pour les traquer. Alors la particularité est qu'ils vont certes mourir avant terme à cause de la malédiction, mais qu'ils vont ressembler à leur apparence finale comme s'ils étaient morts de leur mort programmée. Alors par exemple, l'une des jeunes victimes qui devait mourir de vieillesse va voir son corps se dégrader jusqu'à s'épuiser sous l'effet accéléré du sifflet, ou un autre va être broyé dans les airs car il était prévu qu'il meure écrasé dans une presse. Alors que le nombre de victimes augmente, les adolescents doivent à tout prix briser la chaîne de la mort avant que le dernier écho du sifflet ne scelle leur destin, et ce même si la perspicacité de certains d'entre eux va leur amener des moyens fragiles de fausser compagnie à la faucheuse, aztèque ou universelle.
C'est là.
Qu'est-ce qui est là ?
Un, deux, trois,
Lorsqu'on entend le sifflet retentir, mourir n'est pas un choix.
Quoi de neuf en 2026? Alors on l'a déjà dit, pas grand chose. Hein. Le cinéma d'horreur est en majorité empêtré dans un bourbier de références obligatoires et de prétentions autorisantes qui nie l'aspect à la base profondément autorisant et réflexif du genre, puisqu'il sert, sous le couvert de métaphores, à questionner nos inquiétudes pour mieux parler des travers de notre monde et de notre époque. Bon bref, c'est pas Scream 7 quoi. Le Sifflet fait partie de ces petites et agréables surprises, car c'est un film qui assume pleinement son aspect popcorn et s'inscrit donc directement comme un descendant des films que seule la faste époque des vidéoclubs pouvait nous offrir, pas ceux qui étaient originaux, mais les élèves appliqués qui décalquaient une formule en s'amusant à le faire. Hardy et Owen Egerton, son scénariste, ont même fait une liste officielle de ce qui les avait inspirés. Alors en premier lieu, bien sûr, le chef-d'œuvre de Wes Craven, et accessoirement pour moi, le meilleur film d'horreur des années 80, Les Griffes de la Nuit. Le professeur malchanceux joué par Nick Frost s'appelle d'ailleurs Monsieur Craven. Ils lui reprennent basiquement sa structure, avec ses adolescents face à une mort implacable que les adultes rejettent, et son surnaturel à la frontière du surréalisme. Un autre point fort, et ce même si les adolescents y sont ici moins développés, il y a une fusion entre les outsiders de Breakfast Club qui rencontrent la faucheuse de Destination Finale. L'heure de colle permet de faire des recherches sur cette malédiction, tandis que La Menace Invisible rappelle l'excellente série initiée par James Wong, et qui d'ailleurs a connu un excellent sixième opus pas plus tard que l'année dernière. Le personnage principal, interprété par la charismatique Daphne Keane, vue adolescente dans Logan, épouse la mélancolie existentielle de Donnie Darko, qui devra adopter le pragmatisme des ados de Génération Perdue ou des Griffes de la Nuit pour survivre. Alors, comme tout bon film d'horreur mettant en scène cette tranche d'âge, Le Sifflet est un récit sur le passage à l'âge adulte, la peur de la mort et de ce que l'on risque de laisser ou non derrière nous. Alors bien sûr, le film n'est pas à la hauteur de ses références, mais sa mise en scène très dynamique, sa belle photo et certains personnages inattendus, tels ceux jeune prêtre dealer assure l'intérêt et le spectacle jusqu'au bout. Et quand ce genre de produit est un peu plus incarné que d'habitude parce qu'il connaît, lui, vraiment bien ses classiques, autant lui accorder une séance du samedi soir, supplément popcorn à l'appui.
Voilà, et c'est quand même tous les jours que vous pourrez aller le voir à partir du 18 mars, ce film Le Sifflet. Le journaliste Jean Lucher et sa fille sont pris dans les tensions de la collaboration pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous parlons du rayon et des ombres.
Par ici, s'il vous plaît.
Cinérama.
Ah, mais avec joie.
Plus jamais ça. Car la guerre ne résout rien. À la table là, il y a ma petite fille Corinne. Elle ne grandira pas dans une Europe déchirée par les conflits armés entre les peuples.
Je voudrais raconter comment on en est arrivé là.
Lumière et obscurité ne sont pas forcément éloignées. Victor Hugo les rapprochait dans un recueil. C'est de ce titre dont s'inspire Xavier Giannoli pour dresser le portrait d'un père et de sa fille qui passent des rayons lumineux aux ombres implacables une fois que les Allemands occupent la France. L'ombre et la lumière, les deux personnages, Jean Lucher incarné par Jean Dujardin et Corinne Lucher sous les traits de Nastia Golubeva. Et on rajoute Carax, donc vraiment une fille issue du cinéma. Donc l'ombre et la lumière, ils vont nous le faire partager. Parlons du père, journaliste, patron d'un petit journal entre les années 20 et 40. C'est un radical de gauche qui est pacifiste et qui veut absolument réconcilier l'Allemagne et la France. Il a pour ami Otto Abetz, un prof de dessin sans le sou, qui va devenir, alors oui, là c'est étrange, mais ambassadeur de France sous l'occupation. Il se mettra à son service, assistant à ses fêtes, lui apportant son réseau mondain, et il bénéficiera de subventions déguisées pour son journal pour faire la promotion d'une occupation bienveillante en appuyant les idées antisémites alors même que sa belle-mère est juive. Voilà un destin auquel on a le temps de glisser durant les 3h15 du film. Il terminera vraiment dans l'ombre car il sera fusillé après un procès en 1946, image que l'on voit assez rapidement.
Willkommen.
Au début des années 30, mon père et Otto étaient des pacifistes convaincus.
L'Allemagne veut la paix.
Je crois qu'il faut, maintenir le dialogue avec Hitler.
Désormais, il y a un homme à l'ambassade d'Allemagne qui est mon ami depuis toujours. Et son idée, c'est une politique de collaboration sincère entre les deux pays.
Qu'est-ce que tu veux dire par collaboration ?
Sa fille suit une autre trajectoire. C'est d'ailleurs elle qui raconte l'histoire au travers d'un magnéto à bande que lui donne sa voisine. Dès l'âge de 18 ans, dorlotée par son père, elle va faire ses premiers pas occupant des premiers rôles mis en scène par des réalisateurs juifs forcés de quitter le pays. Mais atteinte par la tuberculose, comme son père, elle devra renoncer au plateau de cinéma, ne faisant plus que des photos de mode et le reste du temps se contentant de faire la fête à grand renfort de champagne dans une France qui crève la faim. Elle n'a jamais été collabo, n'ayant aucune opinion politique. Elle se contentait de suivre son son père, et puis après tout, ce SS ambassadeur de France était son parrain, et elle l'aimait. Alors pour elle, l'ombre, ce sera eh bien les lumières des plateaux de cinéma qui s'éteignent. Ce sera aussi l'après-guerre, ce moment où elle sera condamnée à 10 ans d'indignation nationale, auparavant reconnue pour ses rôles au cinéma, et voilà qu'on lui crache dessus ou qu'on la roue de coups pour le rôle qu'elle a joué pendant la guerre.
Tout ça c'est un jeu de dupes et je te sais trop intelligent pour pas le voir.
J'allais avoir 20 ans. Tout était encore possible.
Moi, je savais pas.
Est-ce que tu as recherché à savoir ?
On nous traitera, mon père et moi, de salauds, de collabos. Mais quand est-ce qu'on devient une collabo ?
Tout ça, c'est ta faute ! Moi, j'ai rien fait !
J'ai rien à justifier.
Alors il n'est pas simple de faire un film en prenant comme personnage des collabos. La majorité des films sur la Seconde Guerre mondiale en France s'emparent des résistants, préférant l'héroïsme qui a aussi l'avantage eh bien, d'être plus photogénique avec ses explosions. Alors on peut remercier Xavier Giannoli d'avoir fait cet effort de montrer la guerre sous l'angle de l'occupation avec celui qui collabore avec l'ennemi. Alors outre les deux personnages principaux, la mère est d'ailleurs écartée car absente, le réalisateur prend le temps d'examiner également eh bien, le comportement d'Otto Abetz, le fameux ambassadeur qui lui aussi fut pacifiste. Le réalisateur ne cesse de montrer les fêtes de l'ambassadeur ou dans les bordels où la guerre n'apparaît plus si ce n'est au détour des nombreux uniformes finalement qu'on y aperçoit. Alors oui, nous ne vivons pas la collaboration dans la classe populaire, nous sommes dans la bourgeoisie parisienne, le monde culturel et intellectuel, ce qui rend cette collaboration peut-être encore plus abjecte. Tandis que certains crevaient de faim, les autres s'empiffraient. Cela nous aide grandement à accepter le châtiment qui va accabler les personnages, même s'il faut bien admettre qu'il est difficile d'avoir de l'affection pour le personnage de Jean Luchaire, évidemment, on comprend vite quel double jeu il joue, comment il s'accommode de la situation, allant de bras en bras, prenant l'argent d'où qu'il vienne, se servant des subventions pour son journal à des fins, alors là, totalement personnelles, autant de traits accablants qui ressortiront lors de son procès. Atteint de tuberculose, il continuait à fumer comme s'il semblait perdu à lui-même. Le film ne prétend pas l'excuser, évidemment, hein, ce serait une posture impardonnable, mais il tente aussi de montrer eh bien, ses contradictions. C'est quand le réalisateur filme la relation père-fille qu'il arrive quand même à nous réconcilier avec les personnages. La faillite morale, la tiédeur que lui reproche même l'écrivain Céline est une autre histoire. Les 3h15 que dure le film ne sont pas de trop, hein, même si au final eh bien, cela fait beaucoup de fêtes. Et pourtant, une fois le générique tombé, on peut encore se demander à quel moment Jean Luchaire a basculé et fait basculer sa fille. Ce film, très bien mise en scène par Xavier Giannoli, est en salle depuis le 18 mars. Il nous donne l'occasion de jouer un blind test avec la filmographie de Jean Dujardin. Voilà, ça va être extrêmement facile. On commence.
Qu'est-ce qui vous est arrivé ?
Oh, un malentendu, je suis rentré dans cette auberge.
Mais je ne vous parle pas de ça, voyons. Il y a 3 ans que vous êtes parti pour l'Autriche.
Ah oui, l'Autriche, oui. Un beau pays. Pas très accueillant.
Ah, je comprends rien à ce que vous dites.
Pas grave. Vous n'auriez pas un peu d'argent que j'aille régler ce différend avec cet aubergiste ?
Écoutez, capitaine...
Ah non, ça c'est fini, ça. Il n'y a plus de capitaine.
Vous avez quitté l'armée ?
Oui, mais sans la prévenir.
Vous avez déserté ? Vous êtes un lâche ? Un traître ?
Voilà, oui, c'est ça. Enfin, excusez-moi, vous auriez un petit quelque chose ? Je vais vous le rembourser.
Je vais vous donner de l'argent.
C'est trouvé.
C'est le retour du héros de Laurent Thirat.
Oui, avec Mélanie Laurent qui donne ici la réplique. Formidable actrice, je le trouve. Un officier fanfaron part à la guerre en promettant d'écrire mais disparaît. Sa promise reçoit alors de fausses lettres héroïques qui vont finir par lui échapper. Deuxième extrait de ce blind test. Nous cherchons un film avec Jean Dujardin.
Hé, hey Spielberg, tu veux que je te dépose quelque part ?
Non, c'est gentil. J'aime bien marcher, moi. Merci.
Je voulais te dire, si tu cherches des salopes pour ton porno, moi, je suis carrément disponible. Je connais le métier, j'en ai fait un peu il y a 20 ans. Je suis encore bonne, hein ?
Non, mais je fais pas du porno. Qu'est-ce qui vous fait penser que je fais du porno ?
Bah, t'as pas l'air d'être dans le vrai cinéma, quoi.
Bah si, je suis dans le vrai cinéma. Tu m'as regardé, là ? T'as vu le style de malade ?
Ah oui, d'accord.
Ouais ? Tu comprends, là ?
Laisse tomber.
Ouais, ouais.
Pauvre type.
Allez, dégage.
Ouais, salut.
Alors, c'est trouvé.
C'est le daim de Quentin Dupieux ?
Oui, un homme obsédé par sa veste à franges 100% daim sombre dans une folie étrange jusqu'à vouloir être le seul à porter une veste au monde, le poussant à éliminer toutes les autres vestes de la planète. Film étonnant de 2019. Allez, un nouvel extrait, c'est très facile et très jouissif.
Eric a gagné le match.
J'ai mis 3 buts !
D'accord. C'est fini. Vous pouvez partir, vous pouvez arrêter, c'est fini tout ça. Vous pouvez rentrer chez vous, tout ça n'existe pas. Regardez-vous.
Vous ne correspondez à rien. Vos looks, vos coiffures, vos dents blanches, tout ça.
Mais la tâche, là, du sale avec du propre autour, ça n'existe pas. Personne ne se salit comme ça, vous comprenez?
Eric a gagné le match.
Regardez vos bouches. Vous êtes danois. Vous êtes doublé.
Vous n'êtes pas synchro. Moi, je suis synchronisé. J'ai un micro, par exemple. J'ai un micro. Vous comprenez?
Ah! Eric a gagné le match.
J'ai mis 3 buts!
Quel match, putain de merde. Quel match? Un match de quoi? De foot, de tennis, de water polo? De quoi? Fou ce qu'il y a comme oiseau ici.
Voilà, une intervention sur le plateau d'une publicité d'une célèbre confiserie. C'est
99 francs de Yann Kounen.
Et oui, film de 2007, publicitaire cynique, Octave manipule les désirs des consommateurs, mais entre excès et remise en question, eh bien son univers commence à vaciller. Allez, nouvel extrait.
Vu votre âge, vous risquez de finir vos jours en prison. Sans chenille-fille, sans jacuzzi, ça va pas vous manquer tout ça?
J'ai parlé à mon avocat, vous avez rien. J'ai arrêté il y a longtemps. Trop longtemps pour que je plonge.
Vous savez, Charles, il y a des gens qui ont de la chance dans la vie. Et la chance, parfois, ça se joue à rien. Vous, ça s'est joué à 5 mois.
Qu'est-ce que c'est, cette connerie?
Ben, vous prenez soin de vos affaires, n'est-ce pas? La poussière, tout ça, ça abîme le matériel. Hein? Le journal, Charles. Le journal.
Quoi, le journal?
Votre matériel de chimie, vous l'avez emballé avec du journal. Il date du 7 juillet 1966. Il y a 9 ans et 7 mois exactement. La prescription, c'est 10 ans.
Alors, c'est trouvé.
Oui, c'est la French.
Eh oui, à Marseille, un magistrat s'attaque à un puissant réseau de drogue. Un face-à-face tendu s'engage entre loi et grand banditisme. Film de Cédric Jiménez de 2014. Dernier extrait. Ça reste l'interprétation,
c'est OC 117, le Kerni d'espion de Michel Hazanavicius.
Film de 2006, le célèbre agent secret, délicieusement ringard, qui débarque en Égypte et qui nous chante cette chanson. Ainsi s'achève le blind test consacré à Jean Dujardin. Une amitié mise à mal par la compétition et la pression du groupe, nous parlons de la danse des renards.
Avec vous, c'est du travail soigné.
Cinérama.
Et ça, c'est clair.
Arrête de faire le clown, là, tu vas énerver les juges, putain.
La danse des renards marque l'entrée fracassante de Valérie Carnoy dans le long métrage de fiction. Après une série de courts remarqués, notamment Titan, primé dans une centaine de festivals, Carnoy transpose sur grand écran son obsession pour la fragilité masculine, le corps en lutte et l'injonction à la virilité. Présenté à la quinzaine des cinéastes au Festival de Cannes 2025, où il a remporté le label Europa Cinéma et le coup de cœur des auteurs SACD, le film se veut un drame sportif hors des sentiers battu, interrogeant non seulement la boxe, mais aussi le rapport entre force, faiblesse et identité. Ce que Carnoy déploie à l'écran est moins l'ascension vers la victoire que la confrontation intérieure d'un jeune homme dont le corps et l'esprit se rebellent contre une culture du no weakness.
Y a ton entraîneur de l'équipe de France qui a dit que tu voulais pas faire la prépa avec eux?
Ouais. T'es sûr?
Alors, ce qu'il faut, c'est juste que Mathéo il puisse rester, comme ça je m'entraîne avec lui.
Batte-moi ça. 40 mètres carrés, à Paname.
Moi là, je peux avoir ça, là.
Bien sûr, tu peux avoir ça. Mais faut que tu gagnes aussi.
Je te le dis, moi, ta réussite, c'est ma réussite, gros. C'est nous deux, frère.
Camille est un jeune boxeur virtuose dans un internat sportif, adulé par ses pairs et promis à un brillant avenir sur le ring. Encadré par son coach, une figure exigeante, mais attentive, il suit des entraînements intensifs, tout en s'échappant un peu, parfois, dans la forêt avec son meilleur ami Mathéo, avec qui il pratique des rituels un peu étranges consistant à nourrir des renards en accrochant aux arbres des bouts de viande subtilisés dans les congèles de la cantoche. Mais voilà, une chute inattendue dans la nature, un accident presque mortel, vient briser sa trajectoire. Malgré une récupération assez rapide, une douleur persistante s'installe dans son corps, menaçant ses performances et sa confiance en lui. Pour échapper à la pression de l'internat et des entraînements, Camille commence à passer de plus en plus de temps dans les bois, où il rencontre Yas, une jeune femme qui s'entraîne au taekwondo et dont l'amitié et la présence deviennent un repère inattendu et l'invite à repenser son rapport au monde, au succès, à ses amis et à la boxe. Sur le ring, dans les vestiaires, partout, la pression est la même, ne surtout pas montrer de faiblesse. C'est ce combat-là, plus que tous les autres, que le film explore.
Ah, tu reprends quand l'entraînement?
Bah, je reprends demain déjà.
C'est bien. Oh, t'as mal là?
Je vois aucune lésion qui puisse expliquer tes douleurs. Médicalement, c'est pas possible ce que tu ressens.
J'ai l'impression que depuis que t'as repris, t'es pas motivé, y'a rien là.
C'est mon bras, c'est toujours mon bras.
T'es vraiment différent des autres. Tu pourras aller loin si tu voulais.
Mais les gens, ils m'aiment que pour ça.
Valérie Carnoy n'est pas un novice de la thématique du corps et de la virilité. Hein, formé à l'INSAS à Bruxelles et fort d'une expérience en psycho et dans le social, il aborde la boxe non comme un simple sport spectaculaire, mais comme un terrain d'épreuve existentielle, où le corps dit stop avant l'esprit. Cette idée essentielle au film transparaît dans la manière dont la caméra se révèle intrusive et haletante, car sur le plan visuel, Arnaud Gay, le chef-op, donne au film une photographie proche du documentaire, privilégiant plan serré et caméra à l'épaule pour coller à la peau des jeunes et rendre palpable la sueur, la lourdeur des affrontements et la densité aussi des silences. Jean-Baptiste Durand, qui incarne le coach, en parle bien. Avec Carnoy, la direction d'acteur n'a rien à voir avec Guiraudy, pour qui Durand tournait dans Miséricorde. Le casting, assemblé comme une troupe cohérente entre comédiens et non-professionnels, fonctionne comme un corps collectif. Et Carnoy dirige très précisément, tout est chorégraphié, les combats aussi. Raphaël Thierry, comédien confirmé, vu notamment dans L'Homme d'Argile, figure parmi les rares vrais acteurs du film. Il y joue le surveillant d'internat, donc aux côtés de Jean-Baptiste Durand, le coach, et de Samuel Kircher. Ce dernier porte le film avec une précision remarquable. Il incarne à la fois la fougue du champion et la fragilité de l'adolescent en crise. Tout comme Durand, ils ont dû apprendre intensivement la boxe pendant plusieurs mois, et cette transformation physique se conjugue à une expressivité émotionnelle fascinante. Même si on peut relever, bon, dans le film, une énonciation parfois imprécise de symboles, comme le motif du renard qui demeure un peu incompréhensible, ou des arcs narratifs qui restent à demi explorés, ces réserves n'enlèvent rien à la force brute du film, ni à la présence magnétique de ses interprètes. Ainsi, Carnoy ne se contente pas de filmer des combats de boxe, il déploie un jeu d'allégories autour de la virilité, de l'amitié et de la souffrance invisible. Plus qu'un film de sport, La danse des renards est un portrait sensible d'adolescence en tension, où l'appartenance à un groupe, la peur du rejet et la quête d'identité s'entrelacent comme une grande danse où les petits renardos finissent par devenir grands.
La danse des renards est en salle depuis le 18 mars. À Budapest en 1957, la vie d'Andor bascule lorsqu'un homme prétend être son père. Nous parlons d'orphelin.
This is Cinerama.
Et ça c'est clair.
Comme pour ces deux précédents films, le mot intense pourrait être utilisé pour décrire le troisième effort de Laszlo Nemes, Orphelin. Et comme pour ses prédécesseurs, eh bien, il faut bien dire que ce n'est pas la projection la plus agréable à laquelle vous allez assister cette année, de l'aveu même de son réalisateur. Alors récit semi-autobiographique sur sa famille, Orphelin met naturellement en avant le parcours de son héros Andor, tout en décidant ici d'élargir le monde au-delà de sa simple perception, comme c'était par exemple le cas au cœur du procédé de mise en scène de son étouffant le fils de Saul. Auparavant, la caméra suivait essentiellement les acteurs principaux, dressant un portrait intense du combat et du parcours d'un individu. Orphelin adopte une approche similaire, centrée sur un seul personnage, mais Nemes offre une plus grande diversité de points de vue. Les aficionados de son style ne seront néanmoins pas déboussolés, parce que la caméra experte de Mathias Ederli floute parfois l'arrière-plan, préservant ainsi le style intense de son réalisateur. À Budapest, en 1957, après l'échec de l'insurrection contre le régime communiste, donc Andor, un jeune garçon juif vit seul avec sa mère Clara, qu'il élève dans le souvenir de son mari disparu dans les camps. Mais quand un homme rustre tout juste arrivé de la campagne prétend être son vrai père, son monde va soudain voler en éclats. Alors si j'évoquais autant le style de Nemes, et en particulier dans Le Fils de Saul, c'est parce qu'on a un peu l'impression que le réalisateur est un peu bridé par ce succès initial, tiraillé entre la volonté de le reproduire et celle naturelle de s'en éloigner. Orphelin, comme le précédent précédent, Sunset, hein, ne manque pas d'intérêt ni de panache, hein, mais aurait pu être plus intéressant encore s'il ne donnait pas davantage l'impression de tenter de recréer une formule gagnante, hein, que de posséder une identité propre. Espérons que Nemes trouvera le moyen de s'émanciper de son premier film coup de poing, hein, car pour l'instant, bah, ce petit orphelin a assurément un imposant grand frère.
En tout cas, il est visible, ce film, depuis le 18 mars.
Terminé pour aujourd'hui.
Pardon ?
J'espère que nous aurons le plaisir de vous revoir.
Ça ne servirait à rien de le nier.
On se retrouve la semaine prochaine, Sophia. Tu auras deux films.
Vous parlerez du splendide Un jour avec mon père et de Love on Trial.
Et toi, Guillaume, tu as un film pour l'instant.
Et oui, le grand retour de Daniel Day-Lewis avec Anemone.
Et moi, je vous parlerai de Julianne et nous écouterons sa réalisatrice. À la semaine prochaine.